Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le chef de l'État et la garde des Sceaux présentaient avant-hier les grandes lignes de la prochaine réforme de la justice. Une loi sera présentée en Conseil des ministres au mois d'avril. Objectif, moderniser l'institution à budget constant. Pour y parvenir, il est question de numériser tout ce qui peut l'être. Alors on pourrait imaginer de pousser la logique encore plus loin en confiant certaines décisions de justice non plus à des juges, mais à des machines. Les avantages sont multiples. Pas de salaire à verser, des procédures plus rapides, donc moins coûteuses puisque automatisées, des décisions plus justes car non biaisées par des préjugés. Mais est-ce vraiment le cas? À première vue, l'intelligence artificielle, les robots échappent à nos travers humains. Sauf à avoir été délibérément programmés pour, ils ne sont ni sexistes, ni racistes, ni capables de la moindre discrimination, puisque dénués d'arrière-pensée. Mais c'est oublier que ce qu'ils apprennent, ils l'apprennent à partir de données que nous leur fournissons, parfois à partir d'idées reçues. L'intelligence artificielle n'est donc pas immunisée contre la bêtise humaine. Alors les robots ont-ils des préjugés ? Eh bien, c'est autour de cette question que nous allons discuter jusqu'à 19h en compagnie de trois invités. Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en informatique à l'Université Paris-Sorbonne, membre du CERNA, commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions Plon, des robots et des hommes. Pour discuter avec vous, Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir. Mathématicien, député de l'Essonne pour La République En Marche. Vous avez été chargé il y a quelques mois de cela. C'était à la rentrée de septembre, me semble-t-il. Absolument. D'une mission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Vous allez bientôt publier un rapport en vue de définir une stratégie nationale en la matière. Et puis, troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Il s'agit de Pierre-Yves Oudéyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives, directeur de recherche à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Vous avez notamment, à travers vos travaux et avec votre équipe, conçu des robots. Première question, je voudrais vous la poser à vous, Laurence de Villers, à propos du titre de votre livre, « Des robots et des hommes ». Est-ce que le terme « homme », vous l'avez employé au sens générique du terme, ou bien est-ce que vous l'avez utilisé parce que vous considérez que le milieu de la robotique est un milieu et de l'intelligence artificielle essentiellement masculin ?
Oui, évidemment, je l'ai utilisé, ce mot « homme » pour dire « humain ». Et effectivement, ce qui ne veut pas dire que le milieu n'est pas suffisamment diversifié, suffisamment mixte. On peut effectivement s'apercevoir très vite en conférence, par exemple, que la population est fortement masculine pour modéliser, pour coder sur ces robots. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes derrière qui sont que ce manque de diversité peut amener à avoir des modélisations qui seraient un peu stéréotypées. Pour l'instant, il n'y a aucun contrôle en fait sur la façon dont ces machines sont réellement construites. Donc on voit se dégager plusieurs applications, la robotique sexuelle, les robots d'agents conversationnels, etc., qui sont censés quand même nous parler à nous humains, femmes et hommes. Or, ils sont principalement conçus par des hommes.
Cédric Villani et Pierre-Yves Oudéyer, est-ce que vous partagez le constat de Laurence de Villers, d'un manque de mixité de ceux qui conçoivent ces intelligences artificielles et du coup des problèmes que cela peut poser dans la façon de les concevoir, Cédric Villani?
Oui, je pense que c'est un constat qui est indéniable, que la mixité pour l'instant n'est pas vraiment au rendez-vous. Au niveau des équipes, c'est pas un problème qui touche spécifiquement l'intelligence artificielle, c'est un problème qui touche de façon générale le secteur des sciences du numérique, l'informatique. On a des...
Et même plus largement les filières scientifiques.
Non, il faut nuancer. Par exemple, c'est le cas en mathématiques, c'est le cas en informatique, c'est pas le cas en biologie. Ça dépend de quelle science il s'agit. Il y a derrière des stéréotypes à n'en pas douter, il y a des habitudes, il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'on peut avoir dans des écoles d'ingénieurs spécialisés en numérique, des taux aussi bas que 10% de femmes. J'insiste sur le fait que c'est une question qui est largement influencée par la culture et un des forts indices que l'on a pour cela, ce sont les comparaisons internationales. J'étais il y a quelques Moi, je faisais une brève visite en Israël dans le cadre de cette mission intelligence artificielle que vous mentionniez, en particulier pour prendre des informations sur la thématique intelligence artificielle et santé, sur laquelle Israël est un des acteurs les plus performants du monde. Et j'ai été très impressionné par le taux de féminisation des équipes de chercheurs que je voyais sur le thème. Donc dans un système qui est plus efficace que le nôtre à promouvoir la mixité sur de tels sujets avec grand profit.
Pierre-Yves Oudeyer, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, il y a beaucoup de femmes.
Alors, la mixité n'est pas entièrement respectée, mais on est un organisme comme d'autres organismes français qui font beaucoup d'efforts pour justement faire des progrès sur cette question de diversité et la place des femmes est particulièrement encouragée et suivie. Et plus généralement, effectivement, comme le disaient Laurence et Cédric, globalement dans la communauté scientifique, on est très loin de la mixité, mais aujourd'hui, en particulier dans des domaines comme l'intelligence artificielle qui propose des enjeux sociétaux important. On voit des évolutions qui sont très positives quand même dans cette direction. Par exemple, si on regarde les plus grandes conférences internationales d'intelligence artificielle, comme celle qui s'appelle NIPS, qui s'est tenue aux États-Unis récemment, on s'aperçoit que les femmes ont une présence de plus en plus importante. Il y a des sous-événements très visibles, très importants, qui sont organisés par et pour les femmes. Et par ailleurs, l'un des indices aussi qui montre l'importance de cette diversité, c'est que je crois que ce sont les femmes aujourd'hui qui sont le plus en pointe justement sur le travail, sur les préjugés, les discriminations qui pourraient être accentuées quand on utilise des systèmes d'intelligence artificielle, des logiciels qui doivent prendre des décisions ou nous aider à prendre des décisions. Il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits dans l'éducation auprès des plus jeunes pour sensibiliser particulièrement les jeunes filles aux sciences du numérique et c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal.
Alors l'intelligence artificielle est loin de se résumer à la question des robots et encore moins à celle des robots humanoïdes, mais puisque c'est à eux qu'on pense immédiatement dans le grand public hein, quand on parle de ces questions, Laurence de Villers, est-ce que cette question de la mixité, elle est importante dans la représentation que l'on va faire, c'est-à-dire que vous évoquiez par exemple les robots sexuels, est-ce que ils vont justement peut-être correspondre peut-être à des stéréotypes qui seront d'abord des stéréotypes portés par des hommes, et est-ce que ça peut aussi contribuer du coup à les renforcer ?
Oui, je pense que c'est ça le souci, hein, c'est de voir que les biais existants dans la société soient renforcés à travers en fait ces machines automatiques. Regardez un peu ce que font la société japonaise produit en fait, par exemple des agents conversationnels qui sont sous forme d'espèces de fées clochettes, des hologrammes sur un téléphone ou un ordinateur, qui sont une présence féminine à la maison. Donc on pense à la présence et cet objet est là tout le temps, l'homme vit tout seul et cet objet lui parle toute la journée comme s'il était un objet présentiel qui représente la femme, la mère, enfin bref. Donc c'est quand même très compliqué. Les effets secondaires de ce genre d'utilisation dans la vie de tous les jours, hein, la publicité que proposait Getbox au Japon, c'était cet objet pour 2 200 €, c'est très peu et ça veut dire que c'est très invasif dans la vie des gens. Donc on voit se développer effectivement des robots féminins. Il y a des noms très Amelia, Nina, Lola. On va trouver des tas de jolis petits noms. Sophia, Danson Robotics. Et il faut faire attention à l'image de la femme qui est derrière et au rôle qu'on veut faire jouer à ces machines.
J'ai un autre prénom à vous proposer. C'est Poppy. C'est un robot qui a été développé par l'équipe de Pierre-Yves Oudeyer. C'est plutôt un garçon, plutôt une fille ou il appartenait au sexe neutre, Pierre-Yves Oudeyer?
Alors figurez-vous que on en a dans l'équipe qui sont toutes les couleurs et on en a des roses. Et curieusement, beaucoup des personnes à qui on le présente pensent souvent que c'est une fille. Mais évidemment, c'est complètement neutre parce que les machines n'ont pas de sexe. Mais on fait très attention, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un robot qu'on utilise beaucoup dans des contextes éducatifs. Et on essaye justement de construire des activités éducatives qui sont adaptées à la diversité.
Mais vous faites très attention à quoi ? Est-ce que ça ne soit pas qu'il ne soit pas identifié à travers un stéréotype ou au contraire qu'en fonction du public on puisse l'adapter ?
Non, ça va au-delà de ça. Ça va, par exemple, le fait que, on va dire spontanément, quand on pense à l'utilisation des robots dans les classes, on va imaginer un contexte où on fait de l'électronique, on bricole et on a des petits garçons autour qui sont en train de faire ça. Alors, évidemment, il faut aussi amener les jeunes filles à faire ces choses-là. Mais au-delà, on va aller faire, par exemple, utiliser des robots dans des activités où il y a beaucoup plus de filles qui sont présentes, par exemple, dans des activités artistiques, dans des activités de danse, où on va parler exactement de la même chose, d'informatique, mais d'une autre manière, avec une autre perspective.
Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous menez dans le cadre de votre mission, Cédric Villani ?
Oui, bien sûr. Notre mission intelligence artificielle est venue avec un éventail très large de secteurs à examiner, de thématiques à examiner, et ça va bien au-delà de la simple développement de la science et de la technologie. Ça va aussi sur notre rapport en tant que société au développement de ces nouvelles technologies. Et parmi ces thèmes, il y a évidemment les questions de stéréotypes, les questions de représentation. Il y a la possibilité de biais dans les personnes qui sont aux manettes, et il y a aussi la possibilité de biais dans les outils qui sont fabriqués. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête, si je puis dire, de ces robots, de ces intelligences artificielles, le nom qui est bien mal choisi parce que souvent pas vraiment intelligente au sens où on l'entend habituellement, mais plutôt dotée d'une grande aisance à reconnaître des situations, à répéter, à reproduire des situations. Et il y a effectivement la question de savoir si on en fait des objets qui rendent des verdicts non biaisés qui nous permettent ensuite d'évoluer vers une diminution des inégalités.
Ce qu'il y a dans leur tête, Cédric Villani, c'est ce qu'on y met. Et justement, est-ce que ce qu'on y met, ça peut être justement un certain nombre de préjugés, de manière consciente ou inconsciente ?
Et c'est là effectivement qu'il y a toute l'ambiguïté, c'est ce qu'on y met, mais on peut avoir conscience ou pas d'y mettre des choses. Prenons quelques exemples. Un exemple qui a défrayé la chronique il y a quelques temps, c'était le robot, le chatbot Tay, n'est-ce pas, qui avait été lancé dans le cyberespace avec pour vocation d'apprendre à parler avec les humains, et une équipe s'est mise en tête de lui laver le cerveau, si on peut dire, le cerveau artificiel, et de lui inculquer des préjugés racistes, misogynes, tout ce que vous voulez. Effectivement, le chatbot, l'entité, si on peut dire, abstraite, a acquis ses préjugés par imitation.
Très vite d'ailleurs, hein, quelques heures seulement. Oui. Ça s'est traduit notamment par une question alors d'un internaute sur Twitter. Est-ce que tu crois, il s'adressait donc à Tay, que l'Holocauste a eu lieu ? Réponse de ce chatbot, pas vraiment, désolé.
Oui, il y avait d'autres encore plus horribles, peut-être tellement horribles qu'on ne va même pas les dire à l'antenne. Mais c'est spectaculaire de voir comment il en a réussi à le détourner. Et ça pose des questions. On se dit, oulala, il n'y a pas que les questions de sûreté, comme on dit, il y a aussi les questions de sécurité. Les outils qu'on va faire, non seulement il faut faire gaffe à bien les concevoir, mais il faut faire gaffe à ce qu'ils ne soient pas ensuite manipulés.
Mais alors justement, Laurence de Villers, si on reste sur cet exemple-là, est-ce que ça veut dire que ce robot conversationnel, il avait été conçu avec des préjugés racistes, ce qui fait que ce robot les a restitués ? Ou bien c'est la manipulation de ceux qui conversaient avec elle, en l'occurrence, parce que l'image qu'on voyait sur le compte Twitter, qu'on voit toujours d'ailleurs, même s'il n'y a plus la conversation, ça ressemblait plutôt à une fille,
me semble.
Androgyne, c'est vrai.
Ça discute.
Mais en tout cas, c'était plutôt dans l'utilisation qui en a été faite.
Oui, et c'est le graal pour les chercheurs. Hein. On ne peut pas concevoir une machine, c'est très compliqué de concevoir une machine qui pourrait tout faire dans notre environnement. Donc un des objectifs, c'est de faire de l'apprentissage en continu, en s'adaptant dans l'environnement réel. Alors il y a plusieurs techniques, par renforcement, par essai-erreur, ce qu'on fait beaucoup en robotique, par imitation. Hein, on imite exactement ce que fait l'humain. Et là, la machine, en fait, a imité ce que disaient les humains et a repris le langage qu'ils utilisaient, un peu comme faisait déjà le premier chatbot qui s'appelait Elisa, hein, qui reprenait les termes de la question pour répondre. Et ça influence énormément la personne. Ça la met devant une espèce de vérité fausse, quoi. Et donc, il faut faire très attention. Ces machines, pour l'instant, peuvent vraiment nous manipuler. Donc, il faut pouvoir les contrôler en continu. Il ne s'agit pas d'avoir des standards en sortie d'usine, on le voit bien. Cette machine, elle sort, elle arrive dans un certain état, et puis au contact de l'environnement et des gens avec lesquels elle va interagir, elle va être capable de s'adapter. Et
cette adaptation... Là, en l'occurrence, c'est pas la machine qui nous a manipulés, ce sont ses interlocuteurs qui ont essayé de la manipuler.
Tout à fait, mais c'est toujours l'humain hein, qui est en cause.
C'est toujours l'humain.
Il est toujours responsable. C'est lui qui fait les machines, c'est lui qui lui donne des données, c'est lui qui l'entraîne et qui lui fait apprendre des choses. Et pour revenir à l'entraînement et aux données qui sont essentielles, hein, puisqu'on voit là, c'est des données qu'il a prises qui n'étaient pas judicieuses, eh bien, on essaie de développer un grand nombre d'outils à travers la recherche et on essaie d'impulser cette volonté de contrôler les données dans l'industrie et dans tout ce qui sera développé. Mais ce que fait Facebook et Google, ce que font Facebook et Google à l'heure actuelle, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que il y a des biais énormes qui sont visibles sur Facebook. Il y a des façons, on appelle ça le nudging, c'est-à-dire en fait la façon de manipuler les gens en douceur, donc pour les faire choisir, décider d'une certaine achat par exemple ou de ses vacances ou de plein de différents sujets. Donc on voit que ça a un énorme pouvoir, ces biais qu'on pourrait rajouter et le choix des données surtout.
Est-ce que ça veut dire, Pierre-Yves Oudéyer, que dans la conception de ces intelligences artificielles, il y a notamment une réflexion sur le fait de les doter d'une capacité à résister peut-être à ces manipulations et donc aux préjugés de ceux qui les utilisent?
Alors, peut-être il est utile de donner quelques autres exemples, parce que finalement, quelque chose qu'il y a dans la tête de ces machines, c'est des logiciels qui permettent de faire des prédictions et qui sont utilisés dans des contextes beaucoup plus importants et impactants que ceux qu'on vient de mentionner. Par exemple, ces machines, elles servent dans le contexte de la banque ou de l'assurance à prédire, étant donné les caractéristiques d'un individu, si ça vaut le coup ou pas de lui faire un prêt et lui donner une assurance. Dans le domaine de la police, ces machines, elles peuvent servir de prédire à quel endroit il est le plus intéressant, selon certains critères, de poster un policier et d'aller faire des contrôles. Dans le domaine de la santé, elles permettent de prédire, étant donné les données d'un patient particulier, est-ce que ça vaut le coup ou pas de lui donner tel ou tel traitement, parce que les traitements, ça peut coûter cher. Et dans tous ces cas-là, comment ça fonctionne? Eh ben, comme on le disait tout à l'heure, la machine, on va d'abord lui donner une base de données avec des caractéristiques de beaucoup de personnes, et puis on va lui faire des statistiques. Et la problématique, c'est que des statistiques, c'est quelque chose qui opère au niveau de la population. Et quand on va aller faire des prédictions au niveau de l'individu, eh bien, il peut se passer des choses assez horribles. Donc, par exemple, un assureur ou un banquier qui va regarder un dossier de quelqu'un qui a le malheur d'avoir une couleur de peau noire, d'être une femme et d'habiter dans certains quartiers, eh bien, en général, la machine, d'un point de vue statistique, va lui dire que peut-être qu'elle a plus de risques de santé, plus que de risques financiers, et alors qu'il n'y a aucun lien causal. La machine, elle est faite pour détecter des corrélations, mais elle ne sait pas véritablement détecter des causes. Et du coup, il y a des discriminations, des inégalités qui sont donc du coup déjà présentes dans la société, qui vont être détectées dans ces bases de données et qui vont être amplifiées parce que justement, elles vont servir d'outils pour prendre des décisions. Donc voilà, c'est vraiment de ça dont on parle. Ça peut avoir des conséquences, pas simplement sur la représentation, comme on le disait tout à l'heure. Par exemple, le fait qu'on va donner une image de la femme particulièrement mauvaise si on fait une recherche du mot CEO dans Google, on va trouver surtout des hommes blancs. Donc ça, c'est évidemment dramatique déjà, mais plus loin encore, dans l'allocation des ressources, aujourd'hui, ces outils sont utilisés à très large échelle et effectivement, ils sont biaisés de plusieurs manières.
Et du coup, est-ce que c'est aux concepteurs de ces intelligences artificielles de penser à corriger ces discriminations? C'est-à-dire finalement, à qui appartient la décision de choisir telle donnée, d'en écarter d'autres pour que, d'un point de vue statistique, on ne reconduise pas ces discriminations, Cédric Villani?
C'est selon les cas, soit aux concepteurs, soit aux commerçants de la solution, soit aux patrons de l'entreprise qui utilise les outils. Mais quel que soit le cas de figure, la responsabilité revient à un humain. Et ça peut parfois être délicat.
Est-ce que c'est une vraie responsabilité politique?
C'est une vraie responsabilité. Je vais insister sur le fait que c'est pas un problème qui est né avec l'intelligence artificielle. Des histoires de gens qui sont discriminés du fait de leur lieu de naissance, ou de leur accent, ou de leur couleur de peau, ou du quartier dans lequel ils habitent, il y en a eu depuis très longtemps, malheureusement. Sur la question algorithmique aussi, bien avant que des intelligences artificielles se mettent en place, il y avait des dérives aussi de ce genre-là. Dans le temps, dans les années 90, c'était pas rare quand vous étiez quand vous faisiez un chèque que le magasin dans lequel vous êtes vous refuse le chèque pour une raison inconnue parce que telle ou telle entreprise refuse de certifier le chèque au vu des paramètres. Ça peut être en fonction de votre âge, en fonction de qui sait quoi. Bon, et incapable de vous l'expliquer.
Mais justement, l'intelligence artificielle, sa promesse, c'est aussi, enfin, la promesse qui est faite, c'est peut-être d'avoir des décisions qui sont censées être plus justes.
Et c'est exactement ça. Là où c'est embêtant avec l'intelligence artificielle, c'est si on lui fait trop confiance ou si on compte précisément sur lui pour donner quelque chose de plus juste et où ça ne délivre pas, comme on dit, c'est-à-dire au contraire, ça donne quelque chose qui enquiste les préjugés. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a des préjugés chez les humains, il y a aussi d'autres problèmes avec les décisions humaines. C'est que ça peut être très variable, dépendre de certains facteurs. On a des études assez bluffantes, si l'on veut, et qui sont inquiétantes sur les certaines décisions de justice qui ont été faites avec beaucoup de rigueur, comme on les voit dans le best-seller de Dan Kahneman, qui vous raconte que la décision rendue par la justice, et dans un peu n'importe quel pays, ça peut dépendre de l'heure à laquelle la décision est prise, ça peut dépendre de nombre de décisions qui ont été examinées, du temps qui sépare les juges du repas, parce que les juges sont des êtres humains comme tout le monde. Et la promesse de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à dépasser ce genre d'aléatoire. Mais on a quand même en tête deux choses. La première, c'est que, comme on le disait, il faut surtout pas reproduire et amplifier des biais qu'on a déjà sans en avoir conscience. Et la deuxième, c'est que on est attaché à la notion que quand on est humain, on est jugé par des humains, un jugement par les pairs, à tel point d'ailleurs qu'il y a des choses dans notre droit. La peine automatique est quelque chose qui est interdit par la loi française et ainsi de suite.
Ne pas trop faire confiance aux intelligences artificielles, Laurence de Villers.
Ben oui, d'autant plus que je vous encourage à lire Richard Thaler et Sechstein, Le Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Et vous verrez que, à travers les machines, les systèmes, on peut influencer énormément. Il y a des biais cognitifs chez l'humain, comme on venait d'en parler, hein, comme Cédric vient d'en parler, et qui vont être produits sur la machine. La façon dont on montre, par exemple, les choix sur un écran, va induire des comportements différents. On peut en cacher plus ou moins certains.
Mais là, c'est quand il y a une intention de manipulation.
Oui.
C'est quelque chose qui est fait de manière inconsciente.
Non, mais même si c'était inconscient, on le met dans une certaine situation et ça induit des choix. Il y a des biais cognitifs dans la lecture des gens de l'environnement. Et ça, je pense que ce qu'on essaie de faire, nous, en recherche, en tout cas, c'est de montrer ces choses-là. C'est-à-dire que on ne manipule pas le choix en lui-même. C'est-à-dire que les choix sont toujours possibles, mais c'est la façon dont on les montre. On va voir, par exemple, que souvent, les gens vont préférer le choix par défaut. Il y a une paresse, en fait, chez l'humain, réelle, qui fait qu'il ne va pas chercher forcément le pourquoi des choses. Quand, par exemple, Facebook a été mis devant le fait qu'il ne donnait pas assez les raisons de ses décisions, il a dit « je vais les mettre toutes ». Et à ce moment-là, l'humain a dit « oula ». Et ce qui était véridique, c'est qu'il ne l'a pas regardé. Hein ? Donc, par paresse, on ne va pas regarder. Alors, c'est un jeu, évidemment, un peu idiot, de fait, de tout montrer. C'est impossible à gérer. Mais, en même temps, ça montre qu'il y a des biais, de toute façon, cognitifs dans tous nos choix. Et la façon dont l'informatique va les mettre en œuvre n'est pas neutre.
On a parlé de décision juste, Pierre-Yves Oudéyer. Est-ce que, quand on conçoit une intelligence artificielle, on la pense justement pour que les décisions qu'elle va être amenée à prendre puissent être considérées comme les décisions les plus justes possibles? Ou bien est-ce que c'est une notion qui ne fait pas partie juste de la vérité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est à l'esprit de ceux qui conçoivent ces intelligences.
Non, vous dites quelque chose effectivement très important. La chose à laquelle vous faites référence, c'est qu'en fait, ici, on ne parle pas simplement d'un problème technique. On parle d'un problème qui est beaucoup plus large, qui est un problème social, un problème cognitif, un problème moral. Ici, on se pose la question qu'aujourd'hui, effectivement, certaines machines peuvent en pratique amplifier des discriminations. Mais la notion même de discrimination, de préjugé négatif, de préjugé qui n'est pas moral, n'est pas quelque chose qui se formalise précisément. C'est un sujet qui, dans bien d'autres domaines, et bien avant l'intelligence artificielle, et a occupé les juristes et la société depuis longtemps. Et la question, c'est qu'on peut pas dire aujourd'hui à un ingénieur qui va concevoir un algorithme, assure-toi que ton algorithme va être juste. On peut pas lui dire ça comme ça parce que on n'est pas capable de lui définir précisément ce que ça veut dire qu'être juste. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de manière générale, en tout cas, il faut que dans l'écosystème de mise au point et de mise en œuvre et d'utilisation de ces machines-là, il faut que les sciences humaines soient présentes, il faut de l'interdisciplinarité et il faut multiplier les points de vue.
Et ça veut dire que les ingénieurs sont prêts aussi, comment dire, à collaborer, à travailler, par exemple, avec des sociologues qui auraient justement étudié précisément cette question des discriminations, Pierre Yvaudeyer?
Alors oui, tout à fait. Et il y a un certain nombre d'actions et de groupes de recherche à la fois dans le monde public et dans le monde privé, dans le monde qui ont déjà considéré cette question comme très centrale, très importante, qui effectivement travaille dans cette direction. Oui, tout à fait.
Laurence Villers.
Oui, on a des exemples. Quand j'ai parlé tout à l'heure, c'est un professeur d'économie et de sciences comportementales de l'Université de Chicago qui vient de remporter le prix Nobel d'économie en octobre 2017. Et on essaie de travailler sur ces sujets, par exemple, sur Paris-Saclay, dans l'Institut de Convergence Data IA, en étant pluridisciplinaire. Moi, je suis plutôt dans la science de modélisation d'intelligence artificielle. Ils sont en économie, donc je travaille avec des gens en économie sur ces sujets qui sont la faculté de droit de Sceaux, et je travaille avec des juristes aussi sur ces sujets. Donc on a bien mis en avant dans cet institut de convergence qui est porté par Noza Boujema sur Paris-Saclay qu'il fallait absolument avoir cette interdisciplinarité pour arriver à progresser sur ces sujets. Et pour revenir à un autre point qui me paraît important, puisqu'on parle de l'humain dans la boucle de la machine, c'est qu'il y a cette coévolution humain-machine, c'est-à-dire que la machine va s'adapter à l'humain, l'humain va s'adapter à la machine, va prendre des décisions à cause de la machine, et va changer. C'est une dynamique des deux côtés. La machine s'adapte et l'humain change aussi de comportement. Et il faut vraiment faire attention à ces modifications de comportement dans la société. Qu'est-ce que ça pourra induire? On parle beaucoup d'anthropomorphisation, c'est-à-dire qu'un humain devant une machine va surcapaciter la machine et va essayer de lui proposer de penser qu'elle a des capacités humaines.
Cédric Villani.
Oui, et je vais ajouter cette question de biais. Il ne faut pas l'avoir seulement comme un aspect inquiétant. Il faut l'avoir aussi comme un problème passionnant. À travers l'étude des biais des algorithmes, on va pouvoir mieux connaître nos biais. On va pouvoir découvrir des choses sur nous-mêmes et se perfectionner, à coup sûr. On peut même imaginer que ça fera partie des méthodes visant à détecter dans la société des biais qui peuvent exister. Utiliser par exemple toutes les données imaginables pour entraîner les algorithmes et voir comment ils réagissent. Également, je vais insister sur le fait que nous avons là tout un ensemble de sujets dont les sciences humaines et sociales vont pouvoir se saisir. Vous évoquiez leur rôle tout à l'heure. Il y a une opportunité de renouveau considérable pour ces disciplines dont nous allons avoir de plus en plus besoin à travers la façon dont ces techniques vont se mettre en place.
Mais ces biais, Cédric Villani, ils sont intéressants effectivement à étudier à partir du moment où ils sont à peu près inoffensifs. Plutôt que de s'interroger du coup sur ce que serait une décision juste prise par une intelligence artificielle, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, ou en tout cas également, réfléchir au type de décision que l'on accepte de voir prise par une intelligence artificielle? C'est-à-dire, à partir du moment où il peut y avoir quelque chose, une sorte de danger, je sais pas, par exemple, imaginons un procès où on remplacerait, je le disais tout à l'heure, un petit peu de manière ironique en début d'émission, mais on remplacerait un juge par un robot, par une intelligence artificielle. Ce qu'il faut pas dire, non, on n'accepte pas que tel type de décision soit prise par des robots.
Pour l'instant, notre position, quand je dis notre, c'est la position que nous adopterons dans la mission, même s'il n'a pas encore rendu nos conclusions. Et la position qui est globalement assez largement partagée, c'est que ce n'est pas à l'algorithme de prendre une décision. La décision revient à l'humain. L'algorithme est là pour faire des propositions, des suggestions et pour instruire le dossier, pour être au service de l'humain qui prend la responsabilité. Et si l'on veut, le but à obtenir, c'est l'algorithme qui analyse la situation en tenant compte, par exemple, de la jurisprudence, en tenant compte de tel ou tel élément, dit à la personne en charge, que ce soit un avocat ou que ce soit un juge en fonction de la situation, voici la décision qui s'inscrit naturellement pour telle, telle et telle raison. Et ensuite, c'est à l'humain de reprendre toute la responsabilité sur soi. Et s'il y a une contestation, il ne faudra pas dire « c'est la machine qui a décidé », il faudra dire « non, c'est moi qui ai décidé et voici les éléments qui ont été pris en compte ».
Pierre-Yves Audeyer et ensuite Laurence de Villers. Pierre-Yves Audeyer.
Oui, il y a un élément, on va dire, d'action, des éléments à court terme et des éléments à long terme. Dans les éléments à court terme, effectivement, quelque chose qui est absolument fondamental, c'est un, comme le disait Cédric Villani, tous ces logiciels doivent être vus comme des outils. Et c'est l'humain qui prend la décision. Et ce qui est très important, et ça pose des questions, on va dire, de recherche passionnantes, c'est de rendre ces outils transparents et compréhensibles. C'est-à-dire que quand la machine va proposer une solution, va conseiller une décision à un humain, elle soit capable de dire « je vous la conseille parce que j'ai regardé telle ou telle variable et j'ai trouvé qu'elles avaient tel type de relation entre elles par rapport à ce qu'on veut prédire ». Et donc, par exemple, si on veut prédire, si on donne une assurance ou un traitement médical à quelqu'un, si on s'aperçoit que la machine prend en compte l'adresse de la personne, tout de suite, ça va nous permettre de mettre un petit peu de côté son conseil.
Mais la machine pourrait dire, je vous refuse un prêt bancaire parce que vous habitez dans tel quartier, que vous êtes d'origine étrangère. C'est-à-dire la machine, c'est peut-être d'ailleurs son avantage par rapport à cette question des préjugés, c'est qu'elle ne saura pas mentir, c'est ça?
Alors, en tout cas, il faut, dans tous ces contextes-là, il faut qu'on fasse le mieux qu'on peut pour qu'elle soit la plus transparente et qu'elle mente le moins possible. Parce qu'ici, le but, c'est qu'elle soit utilisée comme un outil. La problématique qu'on a aujourd'hui dans les grands systèmes d'information, que ce soit ceux qui sont utilisés par les professionnels de la justice, de l'éducation, de l'emploi, ou monsieur tout le monde quand il veut décider d'acheter telle ou telle chose sur Internet, c'est que on va nous faire des propositions qui viennent de boîtes noires et on n'est pas capable d'analyser comment ils ont réalisé leurs décisions et aussi quelles sont les bases de données qui ont été utilisées pour produire ces décisions. On ne sait pas si c'est des bases de données qui ont été construites sérieusement, on ne sait pas si c'est des bases de données qui ont utilisé des données légales ou illégales. D'ailleurs, une deuxième dimension à court terme qui est très importante dans ce contexte-là, c'est évidemment la protection des données personnelles. Je pense que c'est un enjeu de plus en plus important que chaque individu soit capable de contrôler où sont ces données, par quel logiciel sont-ils utilisés. Et puis...
Oui. Allez-y.
Après, il y a des choses un petit peu à plus long terme. On s'aperçoit dans cette discussion qu'aujourd'hui, effectivement, comme le disait Cédric tout à l'heure, finalement, l'intelligence artificielle, elle n'est pas si intelligente. Et en particulier ici, qu'est-ce qui pose problème dans ces décisions? C'est que finalement, il lui manque beaucoup de sens commun, beaucoup de sens moral. Des choses que les humains apprennent, mettent pas mal d'années à apprendre au cours de leur développement et pour lesquels aujourd'hui les algorithmes les plus puissants du monde sont à des années-lumière du sens moral et du sens commun d'un enfant de 3 ans ou 4 ans et pourtant il a encore beaucoup à apprendre et ça ce sont vraiment les choses qu'il va falloir commencer à regarder, essayer de modéliser, mais là on parle pas d'avancer dans le court terme parce que ce sont des problèmes vraiment fondamentalement difficiles, on parle vraiment sur le long terme. Donc il y a des choses à court terme et puis des choses à long terme à regarder.
Laurence de Villers.
Oui, alors moi j'aime pas du tout la comparaison avec les enfants de 3-4 ans parce qu'ils sont éminemment intelligents, beaucoup plus intelligents, sensibles et ils comprennent des situations même s'ils peuvent pas prendre des décisions de type voilà. Et la comparer, il faut pas comparer les machines, hein. Elles sont même pas à l'âge de 3-4 ans quoi, elles sont à rien du tout, elles sont différentes en fait pour moi.
Oui, c'est ce que je dis.
D'accord. Et sinon je voulais reparler de effectivement ces différentes dimensions qui sont la transparence, la capacité d'expliciter en fait les règles utilisées ou pourquoi les choix ont été faits sont des facteurs de confiance. Normalement, ils devraient être des facteurs de confiance. On devrait donner suffisamment, éduquer suffisamment les gens, les former suffisamment pour que ils se soient en capacité de comprendre quand la machine ment ou quand elle essaie de manipuler. Et c'est ça qu'on veut vérifier nous chercheurs, c'est-à-dire que même si on sait que la machine manipule, est-ce que l'humain va encore se faire avoir quelque part? Et ça, c'est vraiment complexe.
J'ai vu dans un article du Monde qu'il y avait l'Union européenne qui réfléchissait à un droit à l'explication qui s'imposerait aux entreprises qui utilisent des
Ben ça serait
des
très très bien d'avoir les capacités de ces machines. Par exemple, Google Home, qui est vendu à la FNAC, les gens se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train d'acheter. Ils sont en train d'acheter une machine qui leur parle de l'appui du bouton, leur joue de la musique, d'accord, c'est pas utile, et leurs données vont aux États-Unis directement pour l'instant. On ne sait pas si ce que dit la machine est vrai ou pas. Hein. La vérité sur l'informatique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On est tous d'accord pour dire qu'on met des données qui sont pas forcément des données justes. On met un peu de tout sur le numérique. Et or, ces machines vont chercher en fait des informations à partir de ça. Donc, il faut apprendre absolument aux gens à avoir plus de libre arbitre, plus de compréhension et expliquer les fondamentaux, les concepts de ces machines. Et pour moi, ça, je trouve que c'est un temps formidable. Ça, je partage tout à fait cette idée avec Cédric, qu'on est en train de vivre quelque chose qui va nous renforcer dans notre idée d'humain, qui va nous permettre d'aller plus loin sur les biais qui existent dans la société. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il faut prendre cet outil.
Cédric Villani, à l'avenir, peut-être que Radio France sera dirigée par des machines et que je serai écarté de l'antenne parce que ces machines jugeront que je suis trop vieux, par exemple. Contre qui est-ce que j'aurai la possibilité de me retourner si je m'estime victime d'une discrimination liée à mon âge ?
Je vais vous le dire, ça n'arrivera pas parce que le Parlement votera des lois qui interdiront à Radio France d'être dirigée par un robot.
Donc, déjà, je suis rassuré.
Vous êtes rassuré.
Ça sera pas éthique.
On tient.
Mais vous avez compris pourquoi je vous posais cette question.
Responsabilité. Alors après, ici et là, et je dis pas que sur le cas Radio France, mais les gestions de ressources humaines faites à l'emporte-pièce. Les humains n'ont pas attendu les algorithmes pour inventer ça ici et là. À la fin des fins, c'est un enjeu pour la suite. D'abord, intelligence artificielle, ça va venir s'intégrer dans un peu toutes les technologies, un peu tous les processus, au point que peut-être d'ici un certain temps, on parlera même plus de l'intelligence artificielle. Ça sera quelque chose comme aussi naturel et omniprésent qu'électricité, si oui. Vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. On pourra peut-être ensuite se défausser sur une mauvaise décision en disant désolé, ça n'est pas moi, c'est la machine qui l'a prise, donc vous n'avez qu'à porter plainte contre le robot.
Voilà, ça c'est ce que vous décrivez est exactement le piège dans lequel l'humanité ne doit pas tomber. Se défausser de sa responsabilité sur les robots et dire finalement c'est la technologie qui choisit et il faut s'en tenir là, et la réponse est non. Il faut affirmer notre droit, aussi bien du point de vue philosophique que du point de vue du droit, que nous sommes responsables et nous devons garder la responsabilité. Et c'est la même chose dans le débat sur les véhicules autonomes ou dans le débat sur les drones, dans le débat sur les évaluations, les orientations. À la fin des fins, c'est un humain qui doit être responsable. Et c'est pas seulement une question de droit, c'est aussi une question de bon usage. Quand on défausse trop de la responsabilité, on se dispense de comprendre ce qui se passe et on perd. Dans les ouvrages, certains ouvrages récents, comme l'ouvrage de Cathy O'Neill, des exemples, des contre-exemples, si on veut, dans lesquels l'usage d'une IA un usage mal calibré aboutit à une aggravation de la situation, sont bien décrits. Il s'agit de utiliser ces exemples pour s'améliorer.
Vous êtes d'accord avec Cédric Villani, Laurence de Villers, et ça veut dire qu'il ne faut pas songer à doter, par exemple, ces intelligences d'un statut juridique qui permettrait justement peut-être de se défausser de sa responsabilité.
C'est exactement ça. Il ne faut pas se dédouaner du tout de responsabilité. Et la machine, en tout cas, n'a pas d'intelligence et n'a pas ce statut. Ce qui voudrait dire dédouaner les entreprises d'aller chercher le bug qui est derrière, si par exemple il y a eu un problème. C'est mettre de l'argent sur la tête des machines et faire qu'il y ait le grand groupe qui soit capable de effectivement mettre de l'argent sur ces machines. Donc c'est absolument pas souhaitable.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Encore un mot, cela dit, Cédric Villani, par rapport donc à cette mission que vous menez, avec un rapport qui sera remis.
On va commencer à travailler avec le gouvernement sur les conclusions tout début février, et ensuite à une date qui n'est pas encore fixée. Il y aura un événement dans lequel on parlera non seulement, ce sera un moment de grand débat public sur l'IA, mais aussi on parlera de ce qui a déjà commencé à être mis en place.
Et avec l'idée de proposer une loi sur la question ?
Il y aura des aspects qui sont législatifs, mais aussi des aspects qui seront administratifs, culturels, des aspects qui seront dans la communication. La loi peut beaucoup de choses, mais c'est pas vers la loi qu'il faut chercher toutes les solutions.
Bon, en tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Cédric Villani, Laurence de Villers et Pierre-Yves Oudéyer. Laurence de Villers, je rappelle, Des robots et des hommes, publié l'an dernier chez Plon. Merci à nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux qui auront assuré le duplex ce soir. Merci également à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Clément Daté. Arnaud Laporte, la dispute, ça arrive très vite.
Oui, dans 3 minutes 30 environ, soyons précis. Nous parlerons d'art plastique ce soir, encore un tour d'expositions diverses. Et dans Du Grain à Moudre, demain, Hervé Gardette.
On va parler de foot. Et de foot business, où s'arrêtera-t-il? On est en pleine saison du mercato d'hiver, avec à chaque fois des records qui sont battus. Ce sera notre discussion demain à partir de 18h20.
France Culture, 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.